Chapitre 2. Encore une innovation qui avait fait hocher la tête aux Leveneuve bien pensants, ces séances artistiques du jeudi. D'abord la peinture sur velours, puis l'aquarelle et la gouache, ensuite l'art innocent de la peinture sur porcelaine, avaient été successivement concédés aux jeunes personnes pour les quelques années de loisirs qui séparent la sortie de pension du mariage et pendant lesquelles il convient de leur créer des dadas anodins. Mais, accordez un pouce, on prétend à une aune. Les fins pinceaux, les petits godets où l'on délaye trois grains de couleur, la décoration des tasses à thé, les roses et les coccinelles avaient cessé de suffire aux ambitions de ces dames. Elles aspiraient au grand art, elles entendaient peindre à l'huile. Il fallut leur ouvrir le musée. Dès lors, on les vit, une fois par semaine, enveloppées de grands fourreaux de lustrine, la palette à la main, et perchés sur de hauts tabourets, en contemplation devant les toiles de leur choix qu'elles s'exerçaient à reproduire. Quand je dis « on les vit », c'est une erreur. Nul ne les voyait, ce qui ne laissait pas de diminuer un peu leur plaisir. Le comité du musée, ayant fixé le jour et l'heure d'admission des étudiantes en beaux-arts, avait décrété que la porte se refermerait impitoyablement sur elles et qu'aucun visiteur ne serait admis dans les galeries avant midi. Les mères rassurées applaudirent à ce règlement élaboré par les pères. Les grands fourreaux barbouillés d'ocre ou même de terre glaise conquirent à ce prix leur droit de cité. On modelait dans la galerie de l'Est. Dans le salon central où se trouvaient les toiles favorites, on gâchait beaucoup de couleurs et l'on poussait de fervents soupirs. Dans les commencements, un silence plein de recueillement planait sur toutes les têtes. Puis on se mit à causer un peu, à demi-voix. Bientôt, on se permit quelques éclats de rire. Finalement, on envoya le concierge acheter des petits gâteaux. L'une de ces dames s'avisa un jour que la bonne peinture ne saurait fleurir sans la critique, que le connaisseur est à l'art ce que la rosée est aux plantes. Aussitôt, toutes ces dames soupirèrent après la rosée, interdite par un règlement barbare. Heureusement, les règlements les mieux faits contiennent toujours quelque article qui permet de saper l'ensemble. On découvrit dans celui du musée une disposition concernant la surveillance des galeries remise aux membres du comité. Une autre disposition, qui n'avait aucun rapport avec la première, accordait aux 10 membres l'entrée libre et gratuite du musée et l'autorisation d'y introduire une autre personne dans les heures où le public n'est pas admis. Par un effort de génie, on rapprocha ces deux clauses. Certains membres, les plus jeunes, avertis de la nouvelle interprétation, prirent dès lors fort à cœur leur devoir de surveillance et parurent s'imaginer que le jeudi matin, surtout, les galeries couraient le risque d'être pillées et saccagées si on les laissait sans gardien. Ils ne manquaient jamais de se renforcer d'un ami et, comme le salon central était, paraît-il, le plus menacé, ils y établissaient leur faction. À 11 heures, la galerie de l'Est émigrait aussi vers le centre, après s'être lavé les mains. Les petits gâteaux faisaient leur apparition, on s'asseyait en cercle sur des escabeaux, on causait, d'art assurément. Chose singulière, la peinture n'en devint pas beaucoup meilleure. Au bout de quelque temps, le secret de ces agapes se divulgua dans la ville. La fraction sérieuse du comité s'en émut, mais liée elle-même par son règlement, elle ne put que faire contrepoids en priant les membres les plus graves de se charger également d'une part de surveillance. « Vous verra-t-on demain au musée ?» se demandaient les vestales de l'art en se rencontrant le mercredi à la promenade. « Quels factionnaires aurons-nous ? Monsieur Colombe ou Monsieur Vandeuvre, ils en parlaient tout à l'heure en sortant de la bibliothèque. « Ah, merci, dans ce cas, je n'y vais pas. » À la semaine prochaine, ma chère. Mon cousin nous amènera cet intéressant Égyptien qui étudie le droit à l'Académie. Je l'ai vu, il est charmant et il a promis de nous apporter des confitures de roses pour l'intermède. Le jeudi dont nous parlons, le 3e du mois, appartenait notoirement à M. Colombe qui était connu pour éprouver l'intermède. Aussi, Monique trouva-t-elle la galerie presque vide, les chevalets appuyés dans un coin, les toiles retournées, ne montrant que leur cadre de bois. En passant, elle échangea un mot avec les fidèles de la terre glaise, les manches retroussées jusqu'au coude, semblait se préparer à quelque opération culinaire. Ah, Monique, je me demandais déjà si je passerais la matinée seule dans ce sépulcre, s'écria Madame Vandeur du fond de la galerie où elle était installée. Seule, répéta Monique, on ne saurait l'être en compagnie de ces tableaux. Je trouve leur conversation plus intéressante que celle de beaucoup de gens. Je disais l'autre jour à Monsieur d'Orbe, fit Madame Vandeuvre en souriant, que vous avez des idées originales, et il prétendait que le comble d'une bonne éducation consiste à n'en pas avoir. Il a dit cela, je n'en crois rien. Merci. En tout cas, il a dû le dire autrement. C'est du Colombe tout pur, cette phrase-là. Il y a des parentés spirituelles. D'ailleurs, les gens qui reviennent d'Orient n'admettent pas qu'une femme ait des idées. Les plus orthodoxes lui concèdent une âme, et encore. C'est de métaphysique que vous causez avec M. d'Orbe ? Demanda Monique en ouvrant sa boîte à couleurs. Non pas, il réapprend son Leneuve sous ma direction. Je le mets au courant. Et vous m'avez fait l'honneur de discuter ma personne ? Oh, vous êtes indiscutable, Monique. Mon mari prétend que vous êtes un axiome, comme deux et deux font quatre. On vous prend tel quel. On n'a pas l'idée que vous puissiez être autrement. Monique, ayant placé son chevalet dans un jour convenable, se mit à considérer son ébauche d'un air désapprobateur. Son modèle, un greuze authentique, une ravissante tête de jeune fille, languissamment inclinée, avait sur les lèvres un sourire vague et mélancolique, un reflet plutôt qu'un sourire, un de ces rayons pâles qui s'éteignent au moment où l'on y arrête les yeux. « Je n'arrive pas à l'attraper, ce sourire !» dit Monique, les bras croisés devant son chevalet. « Il n'est ni dans les yeux, ni positivement sur la bouche. Il flotte quelque part, je ne sais où. »« Voici la garde !» murmura Madame Vandeur, qui, de sa place, apercevait l'extrémité de la galerie. Monique tourna la tête et s'en voulut aussitôt, car M. Colombe entrait avec Rémy d'Orbe. Celui-ci était venu en ville de bonne heure pour voir son notaire, homme très affairé et très matinal. En sortant de l'étude, il rencontra M. Colombe qui se rendait au musée et l'engagea vivement à l'y accompagner. Rémy, sans doute en vertu de la loi des contrastes, se sentait une inclination pour M. Colombe. Il accepta son offre avec empressement. D'ailleurs, il était désœuvré et prêt à saluer comme un bienfaiteur l'homme qui lui aiderait à tuer la matinée. En entrant, M. Colombe s'approcha de Monique, dont il considéra la peinture à travers son lorgnon. « Très bien, très bien » fit-il avec une douce condescendance. « Votre coloris est d'une grande fraîcheur. Quant à l'expression, elle me paraît heureusement rendue. »« Vous trouvez ?» Cela prouve que vous et moi n'y entendons rien. L'expression est justement ce que je ne parviens pas à saisir. J'ai passé des heures à la poursuivre. La persévérance est une excellente chose, dit sentencieusement M. Colombe. Au bout d'un instant, voyant que personne ne relevait cette remarque, il poursuivit : Puisque nous parlons de persévérance, je vous serais obligé de me dire par quels moyens vous estimez que cette vertu si essentielle peut être développée chez les enfants. Cette question, ainsi que d'autres se rapportant à l'éducation, me préoccupe depuis un certain temps. « Voici venir les jumeaux !» pensa Monique qui se tint aussitôt sur la défensive. « Mon système à moi est de gâter les enfants !» répondit-elle, bien résolue à horripiler M. Colombe si c'était possible. « Je les bourre de bonbons et de contes de fées. Ils voient tout de suite que je n'ai pas d'intention pédagogique. Aussi me disent-ils leurs petites affaires, sans craindre que j'en tire une morale. Mais vous leur enseignez à la tirer eux-mêmes ? Pas le moins du monde. Pourquoi leur gâter le plaisir d'être enfant ? « Dans l'enfant, il faut voir l'homme, » fit M. Colombe d'un ton pensif. Il était un peu troublé d'entendre Monique émettre des doctrines aussi légères. « Cependant, reprit-il, S'il s'agissait d'enfants de la classe ouvrière, destinés à vivre plus tard du travail de leurs mains, vous sentiriez certainement la nécessité de diriger leur éducation en vue de... Monique, vous serez ma reine, chuchota Madame Vandeuvre. Monique rougit un peu. Je n'ai jamais réfléchi à cela, fit-elle avec un peu d'irritation, car elle voyait Rémy d'Orbe se rapprocher de leur petit groupe. « Je ne crois pas que le monde marche beaucoup mieux depuis qu'on parle tant d'éducation. Ce qui nous éduque, c'est la vie. » « Cette remarque est fort juste, » dit M. Colombe en se caressant lentement le menton. « Permettez que j'en prenne note. » Il tira de sa poche son fidèle carnet, tandis que Monique rougissait davantage, sentant les yeux de Rémy fixés sur elle. « Il me prendra pour une pédante, il s'imaginera que je fais des mots, » pensa-t-elle. « Monsieur Colombe mériterait la déportation. »« Je rends à César ce qui appartient à César, » fit Monsieur Colombe en remettant soigneusement le crayon dans sa ganse de cuir. « Je n'enregistre rien dans mon carnet sans y ajouter le nom de l'auteur. » « Monsieur d'Orbe, poursuivit-il, l'aphorisme frappant que vous m'avez fourni hier se trouve maintenant sur mes tablettes en compagnie d'une remarque fort judicieuse de Mademoiselle Odel. Vous connaissez le proverbe « ce qui est perdu ne profite à personne ». J'ai observé que chaque jour, des paroles précieuses tombent dans la conversation, se perdent, s'oublient. Je les ramasse comme des perles. Puis, à l'occasion, je les enchâsse dans un discours, dans un rapport, auquel elle donne de l'éclat. Il était évidemment très satisfait de sa métaphore. Monique était sur des épines. Madame Vandeuvre, qui aurait pu changer le cours de l'entretien en s'y mêlant, n'en voulut rien faire. Je me reprocherai de garder pour moi seule cette remarque qui, je le répète, m'a paru très judicieuse, reprit l'intarissable Monsieur Colombe. La voici textuellement, Monsieur d'Orbe. « Ce qui nous éduque, c'est la vie. Juste et concis, n'est-ce pas ?»« Il me semble avoir déjà entendu cela quelque part, » fit Rémy en adressant à la jeune fille un léger sourire d'intelligence. Elle en fut soulagée, car elle vit qu'il reportait sur qui de droit le ridicule de la situation. Et sans doute, tout cela a été dit depuis le temps du roi Salomon, répliqua M. Colombe. Pourtant, certaines pensées, revêtues d'une certaine forme... « Une souris !» fit Madame Vandeuvre avec un petit cri. « Là, dans ce coin !»« Ah, elle a disparu !»« Vraiment, Monsieur Colombe, ceci est inqualifiable. Nous nous réunissons sans défiance pour cultiver les arts sous l'égide du comité et nous sommes entourés de rongeurs. » Ses yeux bleus riaient, mais Monsieur Colombe prit l'incident au grand tragique. Il y a là un danger réel pour nos toiles, car les souris grimpent au mur. D'ailleurs, leur apparition inopinée est propre à inspirer une crainte nerveuse aux jeunes personnes qui se rencontrent hebdomadairement dans cette galerie. Je descends chez la concierge pour m'entretenir avec elle des moyens d'empêcher l'invasion. Il s'éloigna. Monique n'osait lever les yeux, craignant de rencontrer ceux de Madame Vandeuvre et de perdre son sérieux. Rémy, debout derrière elle, considérait sa peinture. Il y a dans ces greuses une morbidesse bien difficile à rendre, n'est-ce pas? Pour l'amour du ciel, causons de quelque chose d'amusant, s'écria la jolie Berthe. Nous l'avons bien gagné. Quand M. Colombe est là, je n'ose ouvrir la bouche, tant je redoute l'honneur de figurer dans son carnet. Vous verrez qu'il le lèguera à la bibliothèque de la ville. Monique, vous passerez ainsi à la postérité. Monsieur Colombe a d'excellentes qualités, répliqua Monique avec quelque chaleur. Mais elle ne put s'empêcher de sourire en se rappelant les qualificatifs peu flatteurs qu'elle lui avait décernés le matin même. C'est un vrai philanthrope, poursuivit-elle en regardant Rémy d'Orbe comme si elle défendait contre lui le héros de l'Eau-Neuve. « Je ne connais pas d'homme plus conséquent avec ses principes. Il donne beaucoup et il n'épargne pas plus à peine que son argent. Les pauvres lui rendent justice. »« Moi aussi, je vous assure, » répondit Rémy d'un ton très sérieux. « Et moi donc ?» fit Madame Vandeuvre. Ils se mirent à rire et la conversation devint plus facile. Monique et Berthe laissèrent leurs pinceaux, rapprochèrent leurs tabourets. Rémi se montra infiniment plus maniable que la veille et se laissa conduire au gré des méandres de l'entretien. Madame Vandeur le fit parler. Il raconta tout ce qu'on voulut, s'adressant à Berthe plutôt qu'à Monique, mais se tournant de temps en temps vers celle-ci, dont les yeux singulièrement lumineux le frappaient. « Décrivez, décrivez !» disait Madame Vandeur quand Rémi glissait trop légèrement sur quelque épisode de ses flâneries autour du monde. Monique ne disait pas grand-chose, mais elle voyait tout ce qu'il racontait. Le ciel d'Afrique, les lacs immenses, ou bien ces redoutables canyons du Colorado, où l'eau tumultueuse se brise contre des murailles sauvages que des milliers d'oiseaux remplissent de leur vol effaré. Tout cela, elle l'avait lu 100 fois, car elle avait une prédilection pour les récits de voyage, mais voir celui qui avait vu, c'était bien autre chose. Il leur raconta aussi sa téméraire entreprise de visiter Petra en compagnie de 2 Américains, résolus à y prendre des photographies ou à périr. Ils avaient admirablement réussi, c'est-à-dire qu'ils étaient sortis de la ville des tombeaux avec la vie sauve et 12 clichés. Les Arabes avaient gardé tout le reste, armes, chevaux, provisions et dollars. Les 3 imprudents gagnèrent Port Saïd après des fatigues inouïes, à moitié morts de privation, mais sans avoir perdu une seule des précieuses plaques. Rémi accompagna les 2 amis à New York, où il ne resta qu'un seul jour. Ayant dû, dans le cours de cette première journée, se soumettre à la mode Yankee des Shake Hands, il serra la main à 362 personnes, apprit que plus de 400 s'étaient fait inscrire pour avoir le lendemain le même honneur et résolut de se soustraire par la fuite à une popularité aussi fatigante. Il dut déployer autant de ruses que s'il se fût échappé du Spielberg, car ses mouvements étaient surveillés par 18 reporters, dont l'un gardait la porte de sa chambre à coucher. Il s'évada par une galerie, tremblant d'être reconnu et ramené en triomphe à son hôtel, tout New York ayant déjà sa photographie. « Si vous l'aviez voulu, l'honneur en aurait fait autant !» dit Madame Vandeur, qui ne pardonnait pas à Rémi de lui avoir gâté un effet. Ils se mirent à causer de la soirée et des personnes qui s'y trouvaient. Monique reprit son pinceau avec distraction, elle n'écoutait plus. Son esprit ne pouvait rentrer si vite dans les limites étroites de l'horizon de l'eau neuve. Il avait pris son élan pour un grand voyage et le poursuivait tout seul. M. Colombe reparut, ayant concerté avec la concierge l'extermination de l'agent Trottemenu par les moyens rapides et humains que recommande la Société pour la protection des animaux. Il essaya de renouer son dialogue sur l'éducation, mais Monique s'y prêta mal. Elle feignait de peindre avec une grande activité, prenant du rouge, du jaune, au hasard, sans regarder son modèle. Elle voulait qu'on la laissât tranquille. M. Colombe finit par le comprendre et se consacra à Madame Vandeuvre. Monique sentait venir sur elle une mélancolie qu'elle connaissait de vieille date, qui suivait toujours les grands élancements ou les heures de jouissance trop concentrées. Là-bas, elle entrevoyait des infinis de liberté faits pour les grands coups d'aile. Ici, la petite sphère mesquine où l'on allait d'un devoir banal à un banal plaisir. Tout ce qui remplissait sa vie de jeune fille lui semblait misérable quand elle tombait dans ce soudain ennui. « Que c'est bête de passer des heures à peindre quand on n'a pas le moindre talent !» pensait-elle, tout en continuant à entasser les couleurs sur sa toile. « Ces compliments que nous nous adressons l'une à l'autre sur notre ouvrage, comme c'est faux, comme c'est vide. Tout est faux, tout n'est qu'apparence et que pose, sous ces airs artistiques que je me donne avec ma palette et mon chevalet. Être entièrement vrai, quel affranchissement! Ah, la vie du voyageur, voilà la liberté! Quelle sensation puissante il doit connaître! Notre existence est en marécage à côté de celle-là. » Tandis que ses pensées couraient ainsi à la débandade, elle passait machinalement la main sur son front. « Il fait trop chaud ici, » dit-elle en levant la tête vers les vitrages. « C'est à n'y pas tenir. Je ne fais que de mauvaises besognes ce matin. Aussi bien, je m'en vais et je crois que je ne reviendrai plus. » Madame Vandeur retourna la tête en riant. « Quoi, ce beau feu pour Greuze ? Mais vous avez la migraine, ma pauvre enfant !» Je n'ai jamais la migraine, je suis très bien. Il est absurde de s'enfermer ici quand le printemps est de retour. » Elle rassembla précipitamment ses capsules à couleurs et ses pinceaux, ferma sa boîte, retourna sa toile et ôta son tablier. « Je regrette vivement que mon devoir m'enchaîne ici pour une heure encore, » dit M. Colomb en tirant sa montre. « Autrement, j'aurais été heureux de vous accompagner et de me charger de votre boîte. » « Si mademoiselle veut bien me le permettre, c'est moi qui aurai ce plaisir, » dit Rémy. Il ajouta qu'il avait affaire rue des Acacias et que la maison de mademoiselle des Anges se trouvait sur son chemin. Monique n'eut donc aucun prétexte pour refuser cette escorte, du reste elle n'en chercha pas. Elle était agitée, mécontente d'elle-même. Elle voulait entendre encore Rémy, tout en sachant bien que chaque mot qu'il dirait la troublerait davantage. Ils prirent une ruelle pavée, bordée de hautes maisons sombres, qui avaient vu de meilleurs jours, car des écussons sculptés ornaient encore leurs façades. Un char de tonneau empiétait sur le trottoir, à la porte d'un cabaret. La rigole était tachée d'un liquide vaseux et rougeâtre, qui exhalait une forte odeur d'alcool. « Voulez-vous que nous prenions une autre route ?» demanda Rémy. « Non, cette ruelle abrège beaucoup, » dit Monique, qui s'aperçut trop tard que sa réponse n'avait rien de très obligeant. Rémy mordit sa moustache et un sourire amusé passa dans ses yeux gris. Monique suivait toujours son idée et, tout en la suivant, elle marchait très vite. Elle se disait « Ces aventures, ces dangers, cette variété incessante, quelle vie ! Il a du courage. J'en aurai aussi, moi. » Mais notre lot, c'est la timidité qui nous sied mieux. » Tout à coup, se tournant vers lui, « Comment avez-vous pu revenir ici ? » fit-elle. Il comprit sa pensée. L'eau neuve est étroite, c'est vrai, mais le monde l'est aussi. Au fond, c'est partout la même chose. Elle secoua la tête d'un air peu convaincu. « Si l'on pouvait changer d'individualité de temps en temps, reprit-il, on aurait quelque chance d'échapper à la monotonie, mais c'est de soi-même qu'on se lasse mortellement. » Monique baissa la tête. « C'est vrai, » dit-elle d'un air pensif. Ce fut à son tour à lui de la regarder avec surprise. « Et encore, » poursuivit-il, « le remède ne serait peut-être pas efficace. Tous les hommes se ressemblent. Un pessimiste européen qui transmigrerait dans la peau d'un lettré chinois n'aurait fait que changer de couleur. Soi-même ou un autre, qu'importe. » « Non, » fit-elle avec quelque vivacité. « Le remède est bon, c'est même le seul. J'en ai essayé. »« Par la métempsycose ? » demanda-t-il en souriant. « Par la sympathie. S'oublier soi-même pour s'absorber dans les autres, c'est là ce que vous voulez dire ? » fit-il en la considérant plus attentivement. « Oui, je ne prétends pas l'avoir fait souvent, mais j'ai essayé. Contre le dégoût dont vous parliez tout à l'heure. » Elle s'interrompit, se demandant comment la conversation avait pu prendre si vite un tour aussi personnel. Il espéra qu'elle achèverait sa phrase. En la voyant, au musée, faire de si mauvaises peintures, il l'avait prise d'abord pour ce type banal de la jeune fille dilettante qui s'engoude tous les arts sans rien entendre à aucun, mais il découvrait maintenant en elle une sorte de sérieux passionné. À son grand désappointement, elle changea de sujet en lui demandant s'il avait trouvé Mademoiselle des Anges vieillie. « Non, elle me paraît toujours la même. Ira-t-elle à Chambert cette année ?»« Sans doute, et je crois qu'elle part demain. Elle a passé 48 étés à Chambert. Concevez-vous cela ?»« Le jour même du retour des Hirondelles, elle commence ses préparatifs. Deux jours après, elle est envolée. » Vous savez qu'elle n'a voyagé qu'une fois en sa vie pour aller dans le Midi où son docteur l'envoyait. Elle en est revenue, bien décidée à ne plus quitter l'Eau-Neuve, déclarant que le monde est trop grand et qu'au milieu de toutes les opinions différentes dont il est rempli, il est trop difficile de rester convaincu que soit seul on a raison et que tous ceux qui pensent différemment sont dignes du feu éternel. Est-ce que nous avons l'esprit très étroit à l'Eau-Neuve ? Fit-elle en levant la tête pour regarder Rémy, qui lui faisait l'effet d'un clocher d'église, marchant à côté d'elle. « De quoi parlez-vous, jeunesse ?» dit brusquement Mademoiselle des Anges elle-même en les rejoignant. Elle sortait d'une maison de pauvre apparence et portait un panier vide. « De vous-même, chère mademoiselle, » répondit Monique. Ah, j'arrive donc à propos. Et que disiez-vous de moi, si on peut le savoir ? Que vous partez demain pour Chanvert. Je vous invite à venir m'y voir, dit Mademoiselle des Anges à Rémy. C'est une haute distinction, fit Monique. On admet à Chanvert que les gens qui se sont admirablement comportés pendant la saison précédente. Si c'était le cas, ma petite, on serait souvent privé de t'y voir, répliqua Mademoiselle des Anges. L'hiver est la saison qui t'inspire le plus mal. Monique rougit, surprise et blessée de cette remarque, faite d'un ton sec et avec une intention marquée. Maman aurait-elle raconté à Mademoiselle des Anges notre discussion de ce matin ? Se demanda-t-elle. Rémy d'Orbe quitta les deux dames à leur porte. Comme Monique montait l'escalier derrière Mademoiselle des Anges, celle-ci se retourna tout à coup et lui dit « Je sais que M. Colombe a l'intention de te prier d'être la marraine des jumeaux du relieur. Je compte que tu accepteras. » Monique ouvrait la bouche pour répondre, mais la vieille demoiselle avait déjà introduit sa clé dans le lourd battant de chêne qui portait son nom sur une plaque émaillée et la referma bruyamment derrière elle. « C'est donc un complot, » pensait Monique, très rouge et très émue. « Mais c'est odieux, c'est abominable. Elles veulent donc que je le prenne en horreur, leur monsieur Colombe. Moi, qui viens de le voir face à face et qui n'ai pas trouvé le moyen, en un quart d'heure, de lui dire une seule chose positivement désagréable. Je n'ai pas osé, voilà le fait. Oh, je suis lâche. De quoi se mêle Mademoiselle des Anges, je voudrais bien le savoir. » Cette intervention l'alarmait étrangement, car il était sans exemple que Mademoiselle des Anges eût échoué dans un projet qu'elle avait une fois pris à cœur. Madame Odel paraissait avoir oublié la scène du matin. Elle accueillit affectueusement sa fille et lui adressa quelques questions sans trop la presser. Elle lui demanda si M. Colombe avait fait son tour de surveillance, s'il avait causé avec elle. « Certainement, répondit Monique, et il s'est montré plus insupportable encore qu'à l'ordinaire. Je ne regrette qu'une chose, c'est qu'à sa sottise, il joigne des vertus qui vous empêchent de le ridiculiser en bonne conscience. » « Voilà une concession que j'enregistre, dit la mère. « C'est la seule que je ferai jamais, répliqua Monique d'un ton significatif. Mais Madame Odel se contenta de sourire légèrement. Sa fille vit bien qu'elle était décidée à éviter toute discussion. « Es-tu revenue seule ?» demanda la mère quand elles s'assirent à table pour le dîner. Marthe, debout sur le seuil, attendait pour apporter la soupière que sa maîtresse eût dit grâce. Madame Odel tenait à ce que la bonne assistât à cet acte pieux qu'elle aurait pu négliger d'accomplir dans la solitude de sa cuisine. Monsieur d'Orbe se trouvait au musée, il m'a accompagnée pour porter ma boîte, répondit Monique, se sentant rougir tout à coup. Je ne sais ce que j'ai aujourd'hui, fit-elle avec impatience, je ne cesse de rougir. En effet, dit sa mère du ton le plus calme, tu as les joues enflammées. Après dîner, mets un peu de poudre de riz, cela te rafraîchira. La belle merveille qu'elle rougisse, pensait Marthe, en posant une petite soupière d'argent fort brillante sur le joli chemin de table dont Monique avait brodé les délicates arabesques. « Je les ai vues ensemble, moi. C'est un homme magnifique. Avec un bouclier, il ressemblerait à eux d'or. » Depuis qu'elle avait lu Les Martyrs, elle avait choisi pour son type idéal cette d'or dont Pierre était jaloux comme d'un rival sérieux. Marthe n'aimait pas M. Colombe. Elle était fine. Ses lectures ne lui remplissaient pas l'esprit à tel point qu'elle n'entendit de quel côté le vent soufflait, mais dans un siècle où il n'est plus d'usage que les toinettes se mêlent aux affaires de cœur de leur jeune maîtresse, elle gardait ses diverses remarques par devers elle et en souffrait beaucoup. « De quoi as-tu parlé avec M. d'Orbe ?» reprit Madame Odel quand Marthe disparut. Berthe Vandeuvre l'a mis sur le chapitre de ses voyages. Il nous a raconté une foule de choses palpitantes. Et difficiles à vérifier, les voyageurs ont ce grand avantage sur les simples mortels. « Tu lui fais tort, maman. Rien qu'à le voir hier, n'as-tu pas deviné qu'il est incapable de la moindre hâblerie ? Il traite même tout cela avec une indifférence étonnante. À la bonne heure. Souviens-toi, Monique, que les aventures les plus brillantes ne valent pas une seule action vertueuse. dit Madame Odèle du ton qu'elle employait quand sa fille avait 8 ans pour lui raconter des histoires à morale. Monique sortit de nouveau après le dîner. Elle eut une longue conférence avec sa couturière, puis elle se rendit chez une de ses amies et y prit le thé à 5 heures. En ce moment même, autour de tous les plateaux à thé de la ville, on discutait Rémy d'Orbe, M. Colombe et la soirée de Madame Vandeuvre. La réaction que Berthe la fileuse avait pressentie commençait déjà. Bien des cœurs sensibles se reprochaient d'avoir témoigné au héros des bonnes heures une rigueur trop grande pour une simple maladresse. D'autres, au contraire, saisissaient avec empressement l'occasion de se révolter contre cet Aristide qu'on avait trop longtemps entendu nommer le juste. La situation se dessinait, la querelle darwinienne revenait sur le tapis. Un souffle d'émancipation passait dans l'air. Chacune de ces dames avait son motif spécial pour choisir l'un ou l'autre camp. Mademoiselle des Anges avait blessé celle-ci d'un de ses mots pointus. Elle avait au contraire relevé et soutenu celle-là après un grand désappointement, lui faisant une défense de son corps contre les médisances. Une autre, mère de 8 enfants dévastateurs, que tous les propriétaires redoutaient comme la peste, convoitait un appartement vacant dans la jolie maison de M. Colombe sur le quai. Elle restait donc dans les eaux conservatrices, tandis que sa cousine, dont le mari était médecin et n'avait pas l'honneur de soigner les bronchites de M. Colombe, se lançait à toute voile dans l'opposition. Un schisme affreux se préparait. La masse homogène et docile que Mademoiselle des Anges avait si longtemps façonnée de ses mains se mettait à fermenter sourdement. Des fentes et des souillures s'y montraient. L'opposition était en quête d'un mot de ralliement. Tout naturellement, on choisit le nom de Rémy d'Orbe qui symbolisa l'affranchissement, l'ère nouvelle, le droit de lire autre chose que des romans anglais et de refuser sa souscription quand M. Colombe ferait circuler plus de 5 listes par mois. De l'autre côté, on se massait autour de l'ancien drapeau, on prenait pour devise « M. Colombe à jamais ». Le thé de 5 heures eut une saveur amère ce jour-là, on entrevoyait déjà la nécessité de se scinder pour éviter des collisions pénibles, d'instituer des thés colombiques et des thés anti. Cependant, Rémy d'Orbe et M. Colombe se promenaient bras-dessus, bras-dessous, dans les environs de la ville, examinant les nouvelles bâtisses, sentant croître leur sympathie mutuelle et ne se doutant guère qu'on les érigeait en capitaines de 2 factions ennemies.